Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Liane.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Pour faire de bons choix dans la vie, nous avons besoin de sagesse. Mais où la trouver?
Pour en savoir plus, écoutez tout de suite notre série sur les proverbes. Nous considérons des personnes dans le livre des proverbes qui servent un peu de figurant, comme dans une pièce de théâtre. Chacune de ces personnes a une attitude différente envers la sagesse et nous donne de quoi réfléchir sur nos propres attitudes.
Oui, c'est exact. Nous avons déjà vu deux personnages qui donnent un mauvais exemple, la femme adultère et la femme insensée. Et la dernière fois, nous avons vu un bon exemple dans l'image d'un père aimant qui s'efforce de convaincre son fils de chercher et de suivre la sagesse.
Reste-t-il aujourd'hui d'autres personnages que nous pourrions étudier avec profit?
Oui, nous n'avons pas épuisé notre sujet. Et aujourd'hui, je propose de réfléchir sur celui qui est appelé le paresseux.
Il n'est pas difficile de deviner son défaut, qui est la paresse. Mais quel est le rapport entre ce trait de caractère et le sujet qui nous intéresse, la sagesse?
C'est ce que je vais démontrer au cours de cette discussion. Mais nous pouvons commencer en lisant quelques citations du livre des Proverbes.
Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à rôtir, mais un homme travailleur possède un trésor. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur seront dans l'abondance.
Voilà des images qui ne demandent pas beaucoup de commentaires. Les proverbes présentent la paresse comme un comportement dangereux, car elle conduit à la pauvreté et à la misère. Une situation qui n'implique pas simplement le paresseux, mais qui touche aussi sa famille et ses proches.
Oui, l'enseignement est clair. Nous avons des responsabilités dans la vie, et la sagesse exige que nous assumions ces responsabilités. Sinon, il nous faudra en subir les conséquences qui sont, comme nous l'avons vu, la misère et la pauvreté. Le travail n'est pas forcément agréable. Je dirais même que pour la plupart des personnes, le travail est ardu, pénible. Ce n'est en général pas quelque chose que nous aimons faire. Cependant, nous devons travailler afin de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles.
Est-il juste de dire que Dieu nous a créés pour travailler?
Si nous avions le temps de lire les premiers chapitres de Genèse, nous verrions que Dieu a confié certaines tâches à Adam et Ève. Ces travaux consistaient par exemple à nommer les animaux ou bien à cultiver la terre. À vrai dire, à cette époque, le travail était facile, satisfaisant, épanouissant, et c'est seulement après la désobéissance d'Adam et d'Ève que le travail est devenu quelque chose de pénible. Cependant, il reste vrai que Dieu nous a créés, entre autres, pour travailler. Si donc nous refusons de travailler, nous rejetons en fait l'un des desseins de Dieu pour nos vies.
Dans un sens, refuser de travailler est quelque chose de profondément égoïste. Car en ne faisant rien, le paresseux dépend d'autres personnes et attend que d'autres fassent le travail à sa place, ou bien que d'autres viennent à son secours, afin de lui donner les choses nécessaires à la vie.
C'est vrai, l'attitude de celui qui peut travailler, mais qui cherche à profiter de la charité des autres, est à blâmer. Les proverbes nous mettent en garde contre une telle attitude, et la Bible la condamne. Toutefois, nous devons faire attention de ne pas arriver à une autre conclusion, qui serait à la fois injuste et dangereuse.
De quoi parlez-vous?
Nous avons vu que la paresse conduit à la misère et à la pauvreté. Alors il serait injuste d'en déduire que tous ceux qui subissent la pauvreté et la misère dans le monde d'aujourd'hui sont paresseux. Ceci n'est pas vrai.
Il est sûr que beaucoup de personnes ont du mal à s'en sortir sur les plans financiers et matériels. Et certains parmi ceux qui nous écoutent peuvent avoir de la peine à subvenir aux besoins de leur famille. À quoi cela est-il dû?
La pauvreté est un problème complexe aux nombreuses causes. Et je pense que la plupart de ceux qui vivent dans la misère sont des personnes qui travaillent dur ou qui souhaitent travailler. Des personnes qui font tout pour s'en sortir, mais qui rencontrent des obstacles tels que les injustices et la corruption, la maladie, les problèmes d'environnement, le mauvais temps ou divers autres fléaux. Les proverbes parlant de la paresse ne s'adressent pas à de telles personnes, mais plutôt à ceux qui négligent leurs responsabilités dans la vie. Les proverbes désapprouvent ceux qui pratiquent le mal, que ce soit l'adultère ou l'infidélité, le vol ou l'injustice, mais aussi celui qui, tel de paresseux, refuse d'accomplir le bien, les œuvres pour lesquelles Dieu l'a créé.
Nous avons vu que le paresseux nous met en garde contre un comportement risquant de nous faire perdre beaucoup sur le plan matériel et financier. Toutefois, les proverbes présentent la sagesse comme un bien beaucoup plus précieux que la richesse. Pourrait-on dire « tant pis pour l'argent, tant que je possède la sagesse ».
Il y a du vrai dans ce que vous dites. Nous devons rechercher la sagesse plus que la richesse. Cependant, la sagesse ne suppose absolument pas que nous négligions nos responsabilités. Je dirais aussi que le paresseux nous met en garde contre une attitude tout aussi dangereuse que celle du refus de travailler pour subvenir à nos besoins.
Et quelle est-elle?
Selon les proverbes, la sagesse ne vient pas toute seule. Elle est comme un trésor qu'il faut chercher. Comme des diamants profondément enterrés, il faut beaucoup creuser pour l'acquérir. Elle ressemble au savoir pour lequel l'élève passe tant de temps à l'école. Ainsi, le paresseux représente celui ou celle qui ne se donne pas la peine de chercher la sagesse divine contenue dans la Bible. Il est celui qui ne veut pas se préoccuper des questions spirituelles, qui traite pourtant de son destin éternel. Le paresseux préfère ne pas écouter l'enseignement de la Bible. Il préfère les choses sans importance à ce qui a la plus grande valeur. Tout comme la misère peut surprendre le paresseux, le jugement de Dieu surprendra un jour celui qui néglige ses questions spirituelles. Il arrivera à l'improviste pour celui qui ne se donne pas la peine d'écouter et de rechercher la sagesse de Dieu.
Pour revenir à l'image de la place du marché que nous avons évoquée précédemment, le paresseux aussi vante les mérites de ses produits, une vie apparemment facile. Une vie d'abord qui lui évite le travail pour gagner son pain quotidien. Ensuite, une vie durant laquelle il ne se donne pas la peine de réfléchir sur les questions importantes soulevées par la lecture de la parole de Dieu.
Oui, ne vous trompez pas, ne soyez pas séduits par la paresse, car derrière ses attraits se cache la catastrophe pour cette vie et pour la vie après la mort. Nous vous présentons notre invité Alain, qui va nous faire part de quelques méditations sur une conversation étonnante entre trois hommes crucifiés sur une croix. Hélène va lire ce récit qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43.
L'un des deux criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »
Avez-vous le courage d'être différent? Avez-vous le courage de prendre position pour l'innocent injustement accusé ou brutalisé? Dans le texte que nous venons de lire, nous assistons à une conversation étonnante entre trois hommes pendus sur des croix. Ils souffrent atrocement et sombrent lentement vers la mort. Jésus fait partie de ces trois hommes. Les évangiles relatent que pratiquement tous se sont tournés contre lui durant les dernières heures de sa vie. La foule l'a méprisé, les soldats romains se sont moqués de lui, et même l'un des malfaiteurs subissant le même supplice osait l'insulter. Tous voyaient en Jésus un être pitoyable, risible et méprisable. Jésus, qui s'était présenté à eux comme le sauveur des hommes, portant ainsi les espoirs de beaucoup, s'avère apparemment impuissant et sans force, car il ne peut échapper à la justice romaine. Et pourtant, au milieu de ce vacarme de raillerie, une voix s'élève pour défendre Jésus. Un des malfaiteurs, pendu sur une croix à côté de Jésus, affirme « Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Ce criminel reconnaît sa propre culpabilité. Il reconnaît aussi l'innocence de Jésus. Son attitude prouve que cet homme ne suit pas aveuglément l'opinion de la foule. Il suit ses propres raisonnements et élabore ses propres convictions. Aujourd'hui, nous pouvons subir beaucoup de pression et d'influence, nous poussant à croire les autres et à faire comme eux, comme cette foule. Autour de vous, les gens se moquent-ils de Jésus? Sont-ils indifférents à son égard? Au lieu de suivre aveuglément leur avis, arrêtez-vous un instant sur ces questions fondamentales. Qui est Jésus? Pourquoi est-il venu? Son enseignement est-il vrai? Ces questions sont d'autant plus importantes à considérer que l'enjeu spirituel qui s'y attache est grand. Notre destin éternel en dépend. Ce malfaiteur n'a pas seulement le courage d'avoir des convictions différentes de celles des autres, mais il place sa foi en Jésus juste au moment le plus difficile. Aux yeux de tous, Jésus agonise sur la croix. Il est mourant. Bientôt, tous les espoirs qui se trouvent en lui vont disparaître. Dans quelques heures, Jésus sera enterré et dans quelques semaines, quelques mois, il sera oublié. Plus personne n'ose croire autrement. Personne ? Non. Ce malfaiteur pendu sur la croix à côté de Jésus lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Quelle foi remarquable ! Cet homme croit fermement que Jésus va régner, que Jésus peut faire quelque chose pour lui, alors que l'un et l'autre sont au seuil de la mort. Qui a raison ? La foule moqueuse ou cet homme confiant ? Nous avons l'avantage de connaître la suite de l'histoire et nous savons que Jésus n'est pas tombé dans l'oubli, car 3 jours après sa mort, il est ressuscité, il fut proclamé Seigneur de l'univers. Le malfaiteur a cru quand cela semblait impossible. Aujourd'hui, il est parfois difficile de croire en Jésus. Les injustices et les souffrances peuvent à nos yeux mettre en doute les promesses de Jésus. Toutefois, ce texte nous rappelle que même quand tout semble noir, Jésus est digne de foi.
L'exemple de ce malfaiteur nous apprend qu'il n'est pas toujours bon de suivre les autres sans réflexion. En fait, une telle attitude est qualifiée de paresseuse dans les Proverbes, car nous laissons d'autres réfléchir à notre place, et ils n'ont pas forcément raison.
Nous vous invitons à réfléchir sur la sagesse contenue dans les Écritures et à placer votre foi en Jésus-Christ, qui est réellement digne de confiance.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.